Bonsoir, nous avons le plaisir de rencontrer aujourd'hui Catherine Cusset, donc auteur de nombreux romans et qui publie récemment Indigo. Catherine Cusset, pouvez-vous nous présenter un petit peu l'ensemble de vos romans pour que l'on puisse ensuite en arriver à Indigo?
L'ensemble de mes romans. Ouh là là, vous allez être encore là dans 3 heures. Donc j'ai publié 10 ou 11 livres. C'est comme les personnages de mon roman. On ne sait pas s'il y en a 3, 4 ou 5. C'est un petit peu le même problème. Donc le premier, c'était en 1990. Il s'appelait La blouse roumaine, dans la collection L'Infini, publié par Philippe Solers. Et je ne suis pas sûre que ce soit le roman qui ait marqué mon entrée sur la scène littéraire, parce que je pense qu'il a été absolument inconnu. Il a été lu par peut-être 300 ou 350 personnes, dont 200 devaient sans doute connaître mes parents. Et les 150 autres, c'était absolument par hasard. Il n'y a pas eu un article, rien ne s'est passé. Donc ça, c'était en 90. Et la publication de ce roman a été en fait un peu traumatique. Parce que j'avais la conviction que j'étais l'unique écrivain au monde à qui une telle chose était arrivée, de publier un roman qui n'attire pas l'attention et dont personne ne parle. Et donc j'en ai tout de suite conclu que j'étais absolument nulle. Et en plus j'avais cette idée que j'avais entendue, il y a des phrases parfois qui flottent dans l'air comme ça et qu'on garde en soi quand on a des moments d'angoisse pour les attraper. Et la phrase en question, c'était « c'est au deuxième roman qu'on voit ce qu'un écrivain a dans le ventre ». Et donc voilà, donc je me disais, il n'y aura jamais de deuxième, et de toute façon, je suis complètement nulle. Donc le premier roman est en 90, et puis il y a eu un petit écart, d'ailleurs qui souvent me caractérise, à des moments où il n'y a pas de publication, mais il y a beaucoup d'écriture. Et j'ai écrit pas mal de choses entre 90 et 94. Et en 95 a paru mon deuxième roman, qui s'appelle En toute innocence, qui a été, pour le coup, l'entrée, ça a été l'équivalent du premier roman. C'est-à-dire que ça a été vraiment le moment où il y a eu de la presse, des réactions. Le livre, à l'époque, avait été nominé pour le Goncourt, pour le Fémina, etc. Et donc voilà, donc, ça, En toute innocence, qu'on trouve maintenant en folio. Ensuite, il y a eu À vous, en 96, qui raconte un peu l'histoire de ces années difficiles et de ce traumatisme post-publication du premier roman et la peur donc de plus jamais y arriver. Donc À vous, c'est un roman un peu particulier comme ça. C'est un roman pour écrivains. Je suis pas sûre qu'il puisse intéresser d'autres gens que les écrivains. Alors en toute innocence, qu'en fait j'ai écrit, qui est apparu avant À vous, mais que j'ai écrit après À vous, parce que À vous m'a libérée de mon angoisse d'être nulle et de pas être un écrivain et de jamais y arriver. Donc il y a des livres qui ont une fonction thérapeutique. À vous avait une fonction thérapeutique. Et donc après j'ai pu écrire En toute innocence, qui est pour moi mon premier vrai roman d'écrivain. Voilà. Donc de pas quelqu'un qui est obsédé par la peur de plus pouvoir écrire, quoi, mais un roman sur autre chose, sur la mort, sur l'enfance. Et puis, alors après À vous, donc en 96, j'ai publié un autre roman en 97. Ça s'est enchaîné, hein, pas mal, 95, 96, 97. Un petit livre qui s'appelait Jouir, au titre un peu choquant, et qui d'ailleurs n'était pas, enfin, on peut l'appeler un roman érotique, mais je conteste cette désignation, de même que pour moi, Indigo n'est pas un roman exotique. J'aime pas tellement les catégorisations. Je pense que tous mes livres ont à faire avec la vie, que parfois la vie a un rapport avec le sexe ou avec le voyage ou avec autre chose, mais c'était pas du tout un roman érotique, c'était un roman sur le désir et sur toute ma vie amoureuse, sentimentale et sexuelle de 6 ans à 32 ans. Et c'est un tout petit livre. On peut dire ma vie n'est pas très importante. C'est un tout petit livre. Et ce livre-là, il a été aussi vraiment étrangement ignoré et même conspué à l'époque. Jérôme Garcin, dans Le Nouvel Observateur, avait publié un article 2 semaines avant la sortie de mon livre qui s'appelait « La rentrée sera chaude ». C'était sur 3 livres qui avaient à voir avec le désir. Et il commençait par le mien pour le démolir, dire que c'était l'antithèse, le contraire de la littérature. C'était tout sauf de la littérature. Après, il y avait un deuxième livre, j'ai complètement oublié ce que c'était, et terminait sur un troisième livre que moi j'avais lu et pas du tout aimé, parce que justement il était totalement dans la périphrase, la métaphore, alors que moi j'avais une écriture absolument directe et que je nommais un chat, alors que l'autre livre c'était quelque chose de très fleuri, comme ça, je ne vais pas le nommer. Et Jérôme Garcin conclut en disant « voilà de la littérature », et le livre a bien sûr eu le prix Médicis ou le prix Femina ou je ne sais pas quoi. Donc vous voyez quand même le pouvoir des journalistes. Et moi j'avais été très surprise quand même par la violence de la réaction, qui ne m'avait pas déplu. Je m'étais dit « tiens, c'est intéressant quand même, quand vous faites quelque chose qui a un rapport avec la vérité, qui est vrai, ça dérange. » Mais en même temps, ça dérange, mais je ne suis pas Catherine Millet. D'abord, j'ai une vie assez... Ce que je racontais dans Jouir était finalement assez banal. C'était vraiment dans la norme. Et je suis pas non plus un écrivain de provocation. Et j'avais bien envie d'avoir un peu plus de succès. Ça méritait de rester comme ça. Je me disais, pourquoi est-ce que les gens disent que c'est un roman érotique, c'est un roman sur la vie? Pourquoi ils ne le voient pas? Et je pensais, tiens, dans la société, il semble qu'il y ait des tabous que moi, je n'ai pas. C'est un peu mon problème, c'est que je manque de tabous. Alors, j'ai pensé, il faut écrire un roman qui respecte ces tabous et voir ce qui se passe. Et donc, en réaction à Jouir, j'ai écrit ce qui a été mon premier roman, qui n'était pas du tout autobiographique, même s'il se passait dans un lieu où je vivais, et qui est Le problème avec Jeanne, où je m'étais dit, je vais écrire l'histoire d'une Américaine, donc différente d'une Française, elle sera différente de moi. Et puis, d'ailleurs, elle aura eu très peu d'histoires amoureuses. Elle sera à la recherche de Mr. Wright, hein, le mari. Elle pensera qu'à ça. Et voilà, on va essayer de la faire très, très sage. Et apparemment, elle n'est pas totalement sage. Mais ce qui est étrange, c'est que voilà, j'ai vraiment décidé de me détourner de moi dans ce livre, même si, évidemment, il y a forcément beaucoup de moi. Et ça a été mon premier succès commercial. De façon intéressante. Donc peut-être que j'avais, je ne sais pas si j'avais raison du point de vue de mon projet, qui était le rapport à la vérité, mais j'avais sans doute raison du point de vue de comment trouver plus de lecteurs. Et donc ce livre qui a eu le Grand Prix des lectrices d'elle en 2000 et qui raconte l'histoire d'une jeune professeure d'université, parce qu'à l'époque j'enseignais à l'université de Yale. Donc ça se passe à Yale en fait, dans cette grande université américaine très célèbre, où cette jeune femme découvre un paquet sur le seuil de sa porte un matin. C'est un manuscrit qui raconte toute sa vie de A à Z. Et elle se demande qui l'a écrit. Moi, ce qui m'intéressait, c'était sa vie. Enfin, sa vie dans les 10 dernières années, les hauts et les bas de la vie. Voilà. Ce n'était pas un roman policier. Vous voyez, j'écris ni des romans policiers, ni des romans érotiques, ni des romans exotiques. Voilà. Mais à chaque fois, il y a peut-être un... Je mords un peu comme ça sur d'autres plates-bandes. Et donc après le problème avec Jeanne, eh bien j'ai réécrit un texte que j'avais écrit avant, qui était La haine de la famille, qui était un texte pour le coup très 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 personnel et très 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 autobiographique, que je n'avais pas publié au moment où je l'avais écrit, parce que je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, mais à l'époque j'habitais à Prague et mon plus jeune frère était passé à Prague. J'avais dit tiens regarde, j'ai écrit un livre sur la famille. Il avait lu les deux premières pages et il m'avait juste dit « Tu veux que papa ait une crise cardiaque ?» Et je m'étais dit « Oula, ah ben non, je n'ai pas du tout envie. » Et donc j'avais rangé ce manuscrit. Et puis après, je l'ai ressorti et je me suis dit « Je vais essayer de pouvoir le publier sans que papa ait une crise cardiaque. » Donc j'ai inventé un jeu que j'avais mis en quatrième de couverture de « La haine de la famille ». C'était l'époque, c'était 98, c'était l'époque de la Coupe du Monde, vous savez, de la victoire de la France. Donc tout le monde ne faisait que regarder du foot, tout le temps. Et donc c'était un jeu de foot comme ça, ça s'appelait le football familial. Et en fait, il s'agissait de repérer... je vous donne des... En fait, vous ne saviez pas, vous étiez venu dans un endroit, vous allez pouvoir trouver un jeu de société très facile, vous n'avez besoin de rien acheter. Il s'agit de repérer le point faible des membres de votre famille. Un point faible en particulier, c'est un point où comment l'appeler ce point-là, justement l'âne de la famille il est là-dessus, le point de la faiblesse narcissique de l'autre, quoi. Et alors par exemple mon père, c'est quelqu'un qui hurle tout le temps et pour des choses stupides, parce que on lui a volé un torchon, il trouve pas les torchons, il en avait 5 et maintenant il n'a plus que 4, bien les valises n'est pas rangées au bon endroit, enfin pour des choses absolument absurdes. Et ma mère, c'est quelqu'un qui est complètement terrifiée par l'angoisse du vide, l'angoisse d'avoir raté sa vie, et qui passe son temps à dire qu'elle a une vie, enfin à l'époque, qu'elle avait une vie complètement nulle et vide, qu'elle n'avait rien fait de sa vie alors qu'elle avait, elle travaillait à plein temps, elle était juge, elle avait 4 enfants, enfin, etc. Et puis voilà, etc., etc. Et donc comme le livre creusait ces choses-là, j'ai inventé ce jeu et j'ai dit on va faire ce jeu qui était un peu comme une sorte de psychanalyse de Monoprix. Et donc si, comme, dès que ma mère commençait à dire oh là là, ma vie toute vide, tout de suite je disais carton rouge. Ou dès que mon père disait mais pas possible, où est cette fourchette pour les escargots, carton bleu, etc. Et donc chacun avait son carton. Et ça permettait ainsi de tourner en dérision ce qui était quand même au cœur de la personne. Et ça préparait donc à la publication de La haine de la famille. Et je suis en train de tout vous dire, si un jour, si vous avez une question qui est « Comment avez-vous fait pour publier La haine de la famille ?» Voilà, la réponse est là. Donc après, ils l'ont lu, le livre. Bon, il y a eu un petit choc. Pas chez mon père, d'ailleurs, qui a dit « Quel roman drôle !» qui n'a pas du tout remarqué que c'était sur lui. Sauf quand même que quand un journal, je crois que c'était Le Monde, a écrit quelque chose comme chez Cusset ou quelque chose comme ça, on ne fait pas l'amour la nuit, enfin, pendant la nuit de noces, il a quand même téléphoné au journal pour dire que c'est complètement faux. Et on lui a dit, mais monsieur, chez Cusset, ça veut dire chez Catherine Cusset. Et non pas chez mon pauvre père, qui était un peu choqué de se retrouver là, comme ça, exposé. Et c'est pas évident d'écrire sur les proches. Mais la plus choquée, c'était quand même ma mère. Mais après, elle a vraiment accepté ce livre qu'elle adore à l'heure actuelle. Donc voilà, donc ça c'était La haine de la famille. Et j'ai continué un petit peu dans cette veine avec Confession d'une radine, qui est un livre également très, très personnel, que j'ai eu un peu peur de publier, parce que... vous pouvez deviner pourquoi. Je me demande si je n'étais pas venue chez Mola pour Confession d'une radine, d'ailleurs. Je suis venue, mais je ne sais plus pour quel livre. Je ne sais plus. À mon avis, c'était peut-être Confession d'une radine. Je trouvais très difficile de parler de ce livre, très difficile qu'on me dise « Alors, vous êtes radine !» Je trouvais ça... pénible, et peut-être parce que la vérité blesse, justement, enfin, c'est moi qui l'avais mise en avant, cette vérité, mais c'est un livre, voilà, comme La haine de la famille, qui creuse quelque chose qui était en moi, qui était un rapport à l'autre, un rapport à la possession, un rapport à l'avoir, quelque chose qui restait vraiment dans le non-dit. Et voilà, et donc tout ça pour dire que c'est une forme d'écriture qui, évidemment, est très importante pour moi. Et en même temps, je pense qu'on ne peut pas... est-ce que je pourrais n'écrire que des livres comme La haine de la famille ou Confession d'une radine ? Vous voyez, le risque de l'écriture du jeu, de l'écriture comme ça d'autofiction, puisqu'il s'agit bien d'autofiction, c'est de se mettre à écrire même quand en fait il n'y a rien à dire. C'est ça le problème. Et je ne pense pas qu'il y ait toujours quelque chose à dire. Je ne pense pas qu'il y ait toujours quelque chose à creuser. Il faut vraiment être dans une position, pour pouvoir écrire ce genre de livre, il faut d'abord qu'il y ait un contenu émotionnel très fort, et aussi, il faut que ce soit du vécu, à mon avis, ancien, et qu'il y ait une position de distance, à la fois une proximité émotionnelle et en même temps une distance. Et donc, il y a un danger dans cette écriture autobiographique, c'est qu'à un moment, ça ne marche pas si vous essayez juste d'écrire un livre pour écrire un livre. Et ça m'est arrivé, d'ailleurs, puisque j'ai après écrit un livre cherchant qu'est-ce que je pourrais donc écrire, quel est le sujet que je n'ai pas creusé, parce qu'il y a eu la famille, là c'est l'amour, la sexualité, l'argent, mais que reste-t-il ? Et il restait les amis, l'amitié. Et j'ai donc écrit un livre qui s'appelait « Autoportrait avec amis » et je ne l'ai jamais publié. Parce que le donnant à lire à quelques amis, concernés ou pas concernés par le livre d'ailleurs, ça n'a pas altéré ma relation avec eux parce que je ne suis pas un écrivain, je ne pratique pas le règlement de compte. Je crois que quand j'écris, j'ai tendance à vraiment me mettre moi en cause plus que l'autre. Donc l'autre, en fait, même dans ce livre, était rassuré en me lisant. Mais en même temps, plusieurs personnes m'ont dit que c'est un livre qui ne marche pas, dont les prémices sont mauvaises. Et c'est compliqué de savoir qu'est-ce que ça veut dire, un livre dont les prémices sont mauvaises. Mais j'en ai conclu, c'est un livre que j'ai écrit parce que j'avais peur de ne plus arriver à écrire un livre. Quoi. Un livre que j'ai écrit en cherchant un sujet. Est-ce que je continue comme ça ? Oui.
J'ai eu le temps de vous lancer sur un vaste préambule.
Alors, où est-ce que j'en suis,
Je trouve que déjà, on entend votre petite musique, Catherine Cusset.
Alors, attendez, j'étais à Confession d'une radine, mais il n'y en a plus tant que ça après.
Ben après, il y a quand même un brillant avenir.
Voilà, je vous explique. En fait, voilà, il y a eu donc la non-publication d'Autoportrait avec Ami. Et puis, il y a eu... Après, j'ai pensé que je n'écrirais plus parce que je n'arrivais plus à écrire. Donc j'ai d'ailleurs dit à mon éditeur, je n'écrirai plus, ce qu'il a entendu comme étant un choix, mais ce n'était pas du tout un choix, c'était un constat assez désespéré, puis finalement objectif, me disant, si j'ai rien à écrire avec le nombre de livres qui paraît, je ne vois pas pourquoi j'écrirais. Donc tant pis, il va falloir faire autre chose. Et puis, de cette situation de renoncement est arrivé Un brillant avenir, qui est un livre à l'origine personnelle. Bon, je ne vais pas vous raconter, comme il ne s'agit pas ici d'un brillant avenir, je ne vais pas en parler maintenant, mais c'est un livre dont l'origine était personnelle et que j'ai finalement écrit comme un roman. Voilà. Mais il y a une origine très personnelle puisqu'il s'agit en fait d'un roman inspiré par la mère de mon mari, par ma belle-mère, et par l'histoire de sa vie et de son émigration aux États-Unis. Et les effets de ce livre ont été très compliqués, beaucoup plus que la haine de la famille, et on posait énormément de questions sur l'écriture et l'effet de l'écriture sur l'autre. Et j'ai écrit un livre à la suite de ça, qui est un livre pour moi très important et très douloureux, et que je n'ai pas pu publier parce que mon mari ne le veut pas. Enfin, il ne l'a pas lu, mais il considère que ce qui est privé doit rester privé. Et c'est vrai qu'on n'est pas obligé de faire ce que son mari veut. Je suis une femme libre. Mais là, je crois qu'il y a un choix à faire, quoi. C'est-à-dire que si je le publie, ce qui est mon droit, hein, c'est pas un livre qui fait du mal, hein, mais si je le publie et que je le blesse en une partie de lui très intime, simplement parce qu'il m'a demandé de ne pas le publier, il a aussi le droit de me quitter. Je n'ai pas envie de prendre ce risque. Donc j'ai rangé ce livre et j'ai pensé à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire ? Il faut que j'écrive autre chose, mais quoi ? Rien d'autre ne m'intéressait. Et puis, il y avait eu une série de deuils extrêmement douloureux. Alors, bien sûr, j'aurais pu écrire sur un autre de ces deuils, qui ne concernait pas mon mari. Mais là aussi, c'était compliqué. Là aussi, il y avait de l'interdit. Il y avait des gens qui me disaient non, il n'en est pas question. Et j'arrivais plus, quoi. Je me disais, c'est pas possible. J'ai l'impression d'avancer en terrain miné et que je ne peux plus écrire un mot sans que ça fasse mal à quelqu'un. Et c'était vraiment un problème, enfin, vraiment difficile. Et à ce moment-là, j'ai reçu une invitation. Alors là, devinez où ? En Inde ! Voilà, j'étais invitée en Inde.
La question suivante, c'était pourquoi l'Inde ?
Alors, j'étais invitée en Inde. Et finalement, je raconte très narrativement comment je vais en arriver à comment est né Indigo et pourquoi Indigo. J'étais invitée en Inde et vraiment, je n'ai pas eu du tout un moment, je ne me suis pas dit à un moment, ah tiens, je vais aller écrire un roman en Inde. Absolument pas. J'ai juste pensé, c'est très bien que je sois invitée en Inde, ça va faire une coupure. J'ai besoin d'une coupure. Je vais un peu me renouveler, je vais penser à autre chose. Je vais découvrir un nouveau pays. Déjà, pour commencer, je me suis mise à lire des romans indiens avant de partir en Inde. Et puis, des livres d'histoire. William Dalrymple, je ne sais pas si c'est un nom qui vous dit quelque chose, qui raconte un peu l'histoire de l'Inde et des rapports avec l'Angleterre au 18e, au 19e siècle. Et voilà, donc j'étais tout à fait ailleurs, un projet de voyage, vraiment la distraction par le voyage. Je ne crois pas beaucoup au voyage, mais... et surtout, je n'écris pas des romans de voyage. Ça, de même que les romans historiques ne m'intéressent pas. Vous voyez, tout ce qui ne m'intéresse vraiment que quand même ce qui a à voir avec l'autre. Donc il n'était pas question d'aller écrire un roman exotique. Bon. Et donc j'ai été invitée dans le même contexte que mes personnages dans Indigo, à un festival culturel en Inde. Et étant invitée une semaine, j'ai quand même décidé que j'allais rester une semaine de plus et voyager seule en Inde. Donc d'abord, je suis partie pour cette semaine de festival. Alors là, vous allez me dire, est-ce que le roman raconte ce festival ? Je dirais oui et non, parce que j'ai eu besoin, quand j'ai écrit le roman, je ne suis pas non plus un écrivain satirique, il ne s'agit pas d'une satire, il ne s'agit pas de ce festival, mais j'ai eu besoin, pour ce que j'ai voulu écrire, d'un cadre. Et j'ai du mal à inventer absolument. De même que Le problème avec Jeanne, qui était un roman pas du tout autobiographique, se situait dans un lieu que je connaissais, un cadre que je connaissais qui était l'université de Yale. Du coup, tout le monde a pensé que c'était mon histoire, parce que c'était les lieux où j'étais. De même, Indigo, quand je suis revenue avec l'idée de ce roman qui a commencé à germer, j'ai pensé que je vais utiliser le cadre de ce festival, ce qui me permettait d'abord de décrire des lieux que j'avais vus, que je connaissais, ensuite de rassembler mes personnages sur 8 jours dans un même lieu. Je n'avais jamais fait ça, une unité de temps et un lieu comme ça, un temps très court et un lieu pratiquement unique. Et donc, comment ça s'est passé? Donc, je suis partie dans ce festival. Vous prenez, si certains d'entre vous ont lu Indigo, oui, mes impressions au départ étaient sans doute assez proches de celles de Charlotte, le personnage le plus proche de moi dans le roman. C'est vraiment une impression d'être là et de flotter, de ne pas voir l'Inde et de me dire mais... Alors j'avais très très peur avant de partir, hein. J'avais très peur, j'avais jamais été en Asie, j'étais convaincue que dès qu'on allait en Inde, on rentrait malade. Je me demandais aussi comment j'allais faire pour voyager seule, est-ce que j'allais pouvoir voyager seule en Inde? J'étais terrifiée, c'est pas évident de se préparer tout seul un voyage à l'autre bout du monde. J'avais prévu, j'avais mon guide du routard, je me suis dit bon ben voilà, je vais me débrouiller quoi, mais je suis pas... J'ai voyagé comme ça quand j'avais 20 ans, mais maintenant j'ai plus 20 ans et je me disais bon, on va voir comment ça se passe. Comment c'est l'Inde? J'avais vraiment aucune idée. Et alors d'abord, la première semaine, j'étais totalement entourée et je n'ai rien vu. Et en même temps, j'ai savouré parce que j'étais heureuse de cette distraction dans l'état où j'étais. C'était amusant, ce petit voyage. C'était plaisant. C'était... Voilà, je retirais pas grand-chose, mais c'était plaisant. Et puis, je suis partie pour mon voyage seule. Et c'est là, en fait, que les choses se sont passées. D'abord, parce que je suis convaincue que le voyage n'a lieu que quand on est seul. Et puis dans des conditions tout à fait réelles, quoi, des bus, des trains, cherchant des petits hôtels en arrivant. J'ai pas voyagé énormément parce que je devais retrouver ma fille à New York, qui était encore pas très grande. Elle avait, je sais pas, 9-10 ans. Donc j'ai voyagé seulement 10 jours toute seule en remontant le long de la côte. Et tout de suite, il y a quelque chose de... Tout de suite, j'ai senti, ah, il va y avoir un livre. Et c'est vraiment la première fois, j'ai énormément voyagé, dans beaucoup de pays d'Europe, j'ai voyagé en Afrique, j'ai voyagé beaucoup en Amérique du Sud, au Brésil. C'est la première fois que j'ai eu ce sentiment-là. Bon, d'abord aussi parce que je n'ai pas toujours voyagé seule dans tous ces endroits-là, mais je vais écrire un livre, je sens que je vais écrire un livre. Et d'abord, l'inspiration, elle a été à cause de cette tension terroriste que j'ai vraiment sentie en étant là-bas. D'abord dans les aéroports, l'interdiction d'entrer, les militaires partout, les mitraillettes à bout de bras. Quand on entrait dans les hôtels, les portillons détecteurs de métal. Et puis ce sentiment comme ça de quelque chose, d'une Inde sur le qui-vive. Et c'était un an après les attentats de Bombay. Moi, j'avais pas du tout suivi à l'époque, hein, ce qui s'était passé à Bombay. Je l'avais dû le voir dans les nouvelles, mais voilà. Et tout à coup, j'ai commencé à lire des récits. Et je pensais, tiens, je vais écrire en fait un roman. Tiens, pour la première fois de ma vie, je vais écrire un roman avec quelque chose de dramatique qui va se passer. Ça va être Yasmina Kadra. Ça va être l'attentat. Je vais écrire un attentat qui se passe dans un hôtel Taj. Voilà, je le voyais, mon roman, là, les Français dans le...
Sur le genre terrorisme international.
Voilà, les Français dans leur hôtel Taj, l'Indien qui les accompagne, la couverture parfaite. Et c'est vrai que cet Indien, en particulier, j'avais rencontré un Indien comme ça, musulman, très anti-américain. Le personnage d'Agdit, il y avait quelqu'un de réel derrière. J'avais pensé, c'était donc possible. J'avais commencé à envisager la possibilité de ça. Et donc, au départ, quand j'ai pris mes notes en Inde, c'était ça que je pensais écrire. Et puis le roman est devenu autre chose. Un roman plus proche de ce que je fais d'habitude, peut-être. Alors la question, est-ce que j'ai eu tort ou pas de retomber sur mes pieds? On n'est pas libre de ce qu'on écrit.
Chaque roman est différent. Et ce qui est intéressant dans ce que vous avez retracé, c'est un petit peu l'itinéraire d'un écrivain. Et on entre un petit peu dans le cerveau de l'écrivain et de l'inspiration. Je crois que c'était tout à fait utile et riche. Pour la première fois, ce cadre très, très, très clair, hein, 8 jours en Inde, avec quelques personnages seulement. Et en même temps, à l'intérieur, on voit bien tout le foisonnement. Et c'est là où je parle de votre petite musique, parce qu'on a vu aussi dans votre réponse déjà tout le foisonnement que vous pouvez y mettre, avec les souvenirs des personnages et puis les entrelacs entre les personnages.
Oui, c'est vraiment le sujet du roman. Et j'ai mis longtemps à comprendre. Je disais, on n'est pas totalement libre de ce qu'on écrit. Et aussi, on ne sait pas toujours immédiatement ce qu'on écrit. Enfin, moi, je n'écris pas des romans à formule. Donc, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui m'intéresse dans un livre pour que je l'écrive. Et là, ce qui m'a intéressée dans ce livre-là, c'était, vous dites d'entre là, c'est exactement ça, c'est vraiment le rapport, l'entrelacement, qui était déjà un peu dans Un brillant avenir, entre le rapport à l'autre, et là c'est un groupe, puisqu'ils sont 4 ou 5, ça dépend comment on les compte, et puis en plus des personnages secondaires, et le rapport à soi, et le rapport à son passé. Donc entre la voix intérieure, et la façon dont on est perçu par les autres et dont on perçoit l'autre. Et c'est ça, c'est vraiment le roman, il porte vraiment là-dessus. Donc il s'est très vite détourné du terrorisme qui m'aurait fait aller vers la formule. J'aurais abandonné, je pense, la justesse de la psychologie si j'avais été dans cette direction-là. Et aussi, mes personnages sont... Enfin, j'étais en Inde, le roman est né de l'Inde, mais en fait, ce qui a émergé dans ce livre, c'était des thèmes qui me préoccupaient, qui étaient le thème du deuil, le thème de la maternité... et puis toute la question de la culpabilité et d'un rapport au monde qui ne serait pas habité par la culpabilité, mais qui serait un rapport au monde plus harmonieux, plus léger, plus zen, hein, on pourrait dire, parce qu'on est en Inde. Et donc mes personnages, ils incarnent, je crois, ces différents rapports au monde.
Et puis l'amour et ses difficultés.
Oui, bon, l'amour est toujours là, forcément. Hein. L'amour et la famille, l'amour, le désir aussi. Enfin, il y a vraiment chacun des personnages est en proie à un problème, quoi. Enfin, un ou plusieurs. Pour Charlotte, c'est le deuil, mais c'est aussi l'amitié, puis c'est aussi simplement la capacité d'avoir un rapport comme ça, facile et harmonieux à l'autre, sans agressivité. Elle est vraiment. Elle découvre cette agressivité en elle qui lui fait peur, comme ça, comment avoir un rapport à l'autre simple. Pour Géraldine, c'est l'amour, la maternité, puis c'est ce désir qui débarque dans sa vie, qui redébarque. Parce que justement, le personnage de Géraldine, donc, qui est la directrice de l'Alliance française de Trivandrum, qui a 37 ans, qui est mariée à un Indien, qui a un bébé de 10 mois qu'elle allait encore, qui a réussi... Qui est apaisée et heureuse de ce qu'elle a réussi à accomplir après des années très difficiles. Elle avait été abandonnée par un fiancé. Elle a vraiment pensé que jamais elle rencontrerait l'amour à nouveau. Et puis elle l'a rencontré avec cet Indien. Et elle est vraiment apaisée. Et voilà que débarque à Trivandrum cet écrivain Raphaël qui a maintenant une nouvelle identité et qui a été la passion de sa très jeune adolescence. Donc je ne crois pas que Géraldine aurait pu être disponible pour que quelque chose se passe avec qui que ce soit d'autre. Il fallait vraiment que ce soit quelque chose qui vienne de son passé et de son enfance. Parce qu'elle, ce n'est pas le genre de personne à se permettre une aventure. Ce n'est pas son propos. Et puis Roland, au contraire, c'est la légèreté incarnée qui voyage avec cette jeune compagne qui est un homme à femme et qui croit pouvoir tout contrôler. Hein, pour lui, l'Inde... Elle appartient à son passé, il la tient à distance, il est désarçonné par rien, il ne craint rien. Et évidemment, le roman lui fait subir
Il y a des moments où on sent aussi une certaine satire quand même, une comédie de mœurs, on va dire, non ? Justement, Roland, par exemple, moi j'ai beaucoup souri quand je l'ai vu retrouver son veston et ressentir de la complétude. Rien ne pouvait lui arriver puisqu'il avait retrouvé sa veste. J'ai trouvé ça très amusant. Il y a beaucoup comme ça de petits clins d'œil un peu à la David Lodge ou bien.
Mais c'est pas
un
c'est
regard
drôle.
Sur les Français de l'extérieur. On va dire.
Je l'ai pas conçu comme une satire. Hein. Je l'ai conçu comme un voyage à travers la pensée de Roland. Qui donc retrouve des jeunes avec cette femme qui a été sa compagne autrefois, donc 25 ans plus tôt, cette Indienne. C'est pour ça qu'il a accepté le voyage en Inde, c'est parce qu'elle l'a contacté sur Facebook. Et c'est pas du tout qu'il retourne vers son grand amour, c'est pas du tout ça, il n'y a rien de romantique. Il a beaucoup souffert quand elle l'a quitté. C'est la seule femme de sa vie qui l'a quitté. Elle l'a quitté autrefois, il n'a jamais su pourquoi. Elle s'est en plus mariée immédiatement, mariage arrangé. Il n'a jamais su pourquoi, donc c'est le seul échec de sa vie. Et il va vers elle avec une curiosité tout à fait intellectuelle. Il a envie de savoir. Il n'est pas... Voilà, c'est pas romantique. Et puis, bon, pendant ce déjeuner, il se pose des tas de questions sur son passé. Qu'en est-il du passé ? Est-ce que ce sont des peaux de serpent dont on se débarrasse ? Est-ce qu'on le porte en soi, le passé ? Et Roland, il n'est pas du tout romantique. Il a toujours une réponse. Il est un personnage heureux. Et finalement, il se découvre qu'il y a cette intimité qui est toujours là avec Srikala, une intimité très forte qui fait qu'il pourrait faire l'amour maintenant. Ça serait possible. Et il y a quelque chose de la familiarité, du désir. Il pense évidemment à la conception du désir qu'on trouve d'Aristophane, qu'on trouve dans le Banquet de Platon. Hein, sa moitié, il se demande si elle est sa moitié, ils sont une telle proximité avec elle. Et puis en même temps, elle lui explique pourquoi elle l'a quitté. Et c'est pas, elle lui dit quelque chose sur lui qu'il n'avait jamais entendu. Jamais entendu. Et sur le moment, il n'en est pas vraiment ébranlé. Moi, je pense que plus tard, si. Mais au moment de la quitter, il s'aperçoit en effet qu'il a perdu au restaurant sa veste comme des garçons qui coûte très très cher. Et il en est tellement contrarié qu'au moment où il retrouve sa veste, il se dit finalement que c'est plus important que le déjeuner avec Srikala. Donc c'est pas moi qui me moque de lui. Je crois que c'est plutôt lui finalement qui se moque de lui-même et qui dit mais dans quoi est-ce qu'il... C'est lui qui se rend compte que finalement la vie, enfin qu'il n'est pas romantique. Mais c'est pas. Je crois pas que je sois dans une attitude satirique à l'égard de mes personnages.
Le mot complétude était quand même bien choisi. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'intervention de narrateur. Il n'y a pas comme chez Balzac. Je vais vous expliquer pourquoi
non, la situation. Non. Je suis à l'intérieur des personnages.
Voilà. La voix, c'est celle des personnages. Ce sont les pensées des personnages. Oui. Et c'est le point de vue des personnages. Et il n'y en a que trois qui ont cette voix sur les quatre ou cinq.
Voilà, Géraldine, Roland et Charlotte. Raphaël, on m'a demandé pourquoi il n'avait pas sa voix, mais déjà un roman choral à trois personnages, c'est déjà compliqué d'avoir trois points de vue. Quatre, je crois que vous y seriez perdu. Et puis, ce n'était pas nécessaire, tout était raconté par ces trois personnages. Raphaël, on l'entend dans les dialogues, il joue un rôle, puis ce n'est pas quelqu'un qui...
Enfin, il est ténébreux. Donc
il est ténébreux, c'est logique qu'on ne puisse pas lire à l'intérieur de lui comme à l'intérieur des autres. Et il apparaît à travers les récits des autres. De même, Renata, au début, elle n'est qu'une ombre qu'on entend à peine, la compagne de Roland. Et puis, elle a sa scène à la fin très importante où on l'entend parler dans le dialogue.
Et certains mots que vous nous avez déjà donnés sur votre manière de concevoir l'écriture ou de lancer un roman, on les retrouve aussi dans les pensées de certains des personnages qui sont eux-mêmes écrivains, enfin, ou artistes en tout cas, par exemple Raphaël ou Roland et aussi Charlotte. Et il y a des expressions, par exemple nommer un chat que vous nous avez répété tout à l'heure, c'est dans Indigo et c'est dans la pensée. Alors, en fait, c'est dans la pensée de Géraldine, mais qui approuve Raphaël.
Oui, et pourtant, Raphaël, ça n'est pas moi. On m'a demandé. Donc, il y a trois types d'écrivains dans Indigo, ou d'artistes, de créateurs. Il y a donc, et qui sont quand même vus par Charlotte, parce que c'est elle qui se pose des questions, puisqu'elle est dans cette angoisse. Charlotte, donc la cinéaste qui habite à New York. Elle est extrêmement inquiète, angoissée, puisqu'elle a cette amie qui s'est suicidée, qu'elle avait perdue de vue, qu'elle a retrouvée à New York 6 mois plus tôt et qui s'est suicidée juste après leur rencontre. Et quand elle l'a retrouvée à New York, là aussi, il y a ce retour du passé, l'amitié ne disparaît pas, les vrais amis, on les retrouve 8 ans après, comme si on venait de les quitter. Et elle avait donné à son amie un film qu'elle avait fait... inspirée par leur amitié, même si c'était tout à fait transposé, puisque c'était l'amitié de deux peintres, un Français et un Américain, et dont l'un réussissait tout et l'autre, sa vie, tout échouait, sentimentalement, professionnellement. Et celui, l'Américain, pour qui tout échouait, il se suicidait. Et voilà qu'elle donne ce film à cette amie et que l'amie se suicide. Et donc, elle se pose la question du pouvoir qu'a la création, évidemment, qui est évidemment une question qui, moi, me préoccupait beaucoup. Et Raphaël, lui, il écrit ce petit livre sur son enfance entre les mains d'un père abuseur, donc complètement d'une enfance très tourmentée. Et c'est un livre où il dit tout et à un moment, Charlotte lui dit « Mais tu n'as pas peur que ta mère se suicide ?» Et il lui répond « Ben non, un livre doit avoir un rapport avec, il doit être, avoir un lien avec la vérité, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et l'enjeu, c'est effectivement la vie ou la mort, sinon la littérature n'a pas d'intérêt. » Donc ça, c'est la conception de Raphaël que moi je rapproche par exemple d'un écrivain comme Christine Angot qui est quand même quelqu'un de très radical, de très fort et violent dans sa position. À côté de ça, il y a un écrivain comme Roland qui lui est un essayiste et un romancier et qui lui est plutôt en recherche d'idées qui fera très distant de lui, hein. Il va mettre de lui certainement comme tout romancier, mais ce qu'il veut c'est trouver l'idée, le roman à succès, voilà, qui obtiendra du succès. Et ce n'est pas le romancier qui intéresse Charlotte. Donc elle, par ailleurs, comme personne, elle le trouve absolument charmant, délicieux, adorable. Quant à Charlotte, elle est beaucoup plus dans le doute. Elle dit qu'elle aime ce que fait Raphaël. Elle est plus du côté de la vérité, mais elle-même, elle en serait incapable parce qu'elle a trop peur de l'effet sur l'autre. Donc c'est sûr que pour moi, je suis plutôt
de ce côté-là.
Oui. Voilà. Et on voit aussi dans le roman, justement, un petit peu le laboratoire de l'écrivain Roland, puisque dans l'avion, quand il prend son stylo et qu'il essaye de, d'écrire ses illusions perdues, enfin d'y penser en tout cas, il se remémore la suite de ses amours. Et du coup, le roman nous raconte aussi. Hein,
C'était ça l'idée, en fait. Voilà, hein. Je voulais ça. Simplement trouver un moyen de raconter au lecteur le passé de Roland. Donc, je suis passée par ce stratagème de Roland lui-même, se disant qu'il allait écrire sa vie un peu comme Femme de Solaire, soyez un livre comme ça, où il raconterait toutes les femmes de sa vie.
Oui, c'est ça. Et comme vous dites, comment avoir du succès, hein, Un enfant du siècle, par exemple, c'était aussi un titre auquel il pensait.
Musset, la Balzac. Il a une tradition très classique, très classique, Roland. Mais en même temps, à la fin de cette journée à Chennai, quand il se trouve qu'il a frôlé là, à nouveau un acte terroriste qui a eu lieu dans cette ville, bon, que j'ai inventé, mais que j'ai inventé après avoir fait des recherches, c'est quelque chose qui a eu lieu ailleurs, un épisode où intervient. Enfin, c'est pas un acte terroriste, c'est à vrai dire, c'est une élimination qui a lieu, donc commanditée par le Mossad. Et là, il se dit, c'est bien plus intéressant qu'un roman sur mes femmes et sur mon passé. C'est vers ça qu'il faut se tourner. Donc Roland est en effet l'écrivain en quête de l'idée qui séduira les lecteurs. Oui. Je crois que tout écrivain se pose forcément toutes sortes de questions. Ça n'existe pas quand même l'écrivain qui ne va pas se poser la question. Vous savez, parfois, moi, je suis à des tables rondes avec des écrivains et puis il y a à chaque fois la question que posent les lecteurs qui est, quand vous écrivez, est-ce que vous pensez au lecteur ? Et tous les écrivains à la table ronde, quelle va être leur réponse ? Ah non, certainement pas. Nous ne pensons pas au lecteur, nous pensons qu'à l'écriture, à ce que nous avons à dire. Mais c'est vrai. Mais en même temps, le lecteur est quand même là. C'est pas possible. Il est là. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'un écrivain, de roman en roman, il change. Et il change parce qu'il est aussi influencé, je pense, par ce qui est arrivé au sort de ses livres. Voilà.
Oui, c'est peut-être le sens du pseudonyme de Raphaël. Et le taire, est-ce qu'il est si libre que ça, y compris vis-à-vis de son écriture? Enfin, on a l'impression que c'est un des sujets sous-jacents, peut-être, de votre réflexion aussi là-dessus.
La liberté?
Oui.
Bah déjà, oui. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on est très libre de façon générale. D'abord, en tant qu'écrivain, on n'est pas tellement libre parce qu'on ne peut faire que ce qu'on peut faire. On ne peut faire que ce qu'on arrive à faire. Donc on peut essayer, évidemment, on est libre d'essayer, mais on n'est pas. Ça serait bien si on pouvait, si demain je me réveillais et que je me disais aujourd'hui je vais être Balzac, voyez, ou même je sais pas, ou je vais être Annie Ernaux, ou je vais être Welbeck. On n'est pas, on ne fait que ce qu'on peut faire, et il s'agit sans doute d'arriver à savoir ce qu'on peut faire, à aller dans le sens de ce qu'on peut faire. Et c'est ça qui n'est pas facile, c'est d'essayer. Et par exemple, finalement, Indigo, est-ce que c'est ma veine ou pas ma veine ? Je ne le sais pas. C'est un essai pour moi, c'est un essai de quelque chose d'un peu différent, qui a au moins le mérite de beaucoup distraire le lecteur. Et c'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu irritée parce que la première réaction, ça a dit « Ah, c'est un livre très, très, très distrayant. Je ne pouvais pas l'arrêter. » Et je n'aimais pas ce mot de distrayant. Je me disais « Oh là 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 là, distrayant. C'est horrible comme mot. »
C'est vous qui avez mis beaucoup de péripéties.
Alors voilà. Et une amie m'a dit « Mais enfin, Catherine, quand tu écrivais le livre, on a déjeuné ensemble et tu m'as dit « Je suis en train d'écrire un livre très distrayant. » J'avais oublié. J'avais dit « Il se passe plein de choses dans ce livre. » Et je crois que quand je l'ai écrit, j'ai voulu m'amuser. J'ai eu besoin de m'amuser. Et voilà, et donc je ne peux pas non plus me plaindre si après on me dit « Ah, c'est un livre très amusant et très... » Il est sans doute, de ce point de vue, plus léger que mes autres livres, mais je l'ai aussi écrit en réaction à ce livre que je ne peux pas publier, qui est un livre purement douloureux. Donc alors, quelle est ma veine entre les deux ? Il faudrait que je puisse vous montrer l'autre pour que vous me le disiez. Oui, malheureusement, il n'est pas publiable. Là,
je pense qu'un livre s'inscrit dans un paysage intellectuel ou sensible et que... un écrivain a son univers, donc c'est pour ça que c'était intéressant de vous entendre parler aussi de vos autres romans, parce que je crois que ça entre en résonance vraiment avec Indigo, et ça appelle d'autres lectures. Enfin, on retrouve non seulement votre petite musique, mais aussi des échos des personnages, des motifs, hein, les scènes sur la plage, par exemple, on les a vues ailleurs, dans Jouir, il y en a une, par exemple... enfin, même les personnages, on retrouve c'est Marie, vrai, Catherine, Charlotte. Bon, hein, il y a toujours un petit peu.
Oui. Oui, oui. Et c'est vrai reprises. Que d'ailleurs, que, et même je dois vous dire qu'au début, Charlotte, elle s'appelait Marie. C'est vrai que je voulais vraiment la continuité avec mes autres romans, donc une sorte d'alter ego. Et puis j'ai décidé au contraire de la débaptiser, pas pour vous tromper, mais plutôt parce que je me suis dit, tiens, je vais voir si j'arrive à créer un personnage qui serait un peu plus détaché de moi. Je dis, pourquoi après tout, il y aurait besoin d'un personnage qui me ressemble ? Et si, peut-être qu'en en lui donnant un autre nom, je vais réussir à le mettre plus à distance. Parce que le personnage le plus proche de soi, c'est souvent le plus difficile à créer. Et alors, je sais, ça fait quelques changements, le fait de changer le nom. Et, oui. Et voilà, donc il me ressemble alors, quand même, mais c'est pas grave.
Et Charlotte est décidément vouée aux débaptisations, aux rebaptisations, parce que dans la haine de la famille, il y a aussi. C'est dans la haine de la famille.
C'est Marie. Hein c'est Marie dans la haine de la famille, et dans Un brillant avenir, et dans Toute innocence, oui. Et dans À vous.
Mais les deux Charlotte, dont l'une reprend son nom usurpé, vous savez.
Oula, mais vous connaissez mieux mes livres que moi.
Je crois que c'est dans la haine
c'est
de la
extraordinaire.
Famille.
je ne savais même pas que j'avais appelé un autre personnage
oui,
Charlotte.
Il y a deux filles, hein, deux enfants et qui s'appellent Charlotte. Et l'un c'est l'une de l'autre. Et donc, quand elle se retrouve dans la famille recomposée, bon, il y a eu cette histoire de rebaptisation.
Ah oui, donc c'est un prénom qui était déjà
voilà,
là.
Qui se complètement... prête au débaptisation.
En fait, vous voyez, on n'est pas tellement libre, c'est ce que je vous dis. On retombe souvent dans les mêmes ornières, quoi, les mêmes prénoms.
Mais non,
les
ce ne sont pas des ornières, ce sont des motifs.
Des motifs, d'accord.
Et c'est ce qui
je
ne
vais pas m'embourber.
C'est ce qui fait, je trouve, encore une fois, la musique de l'écrivain. Alors, ce que donne aussi un cadre comme l'Inde, hein, qui est absolument foisonnant et quand même exotique, qu'on le veuille ou non, c'est aussi cette exacerbation du corps. Et ça aussi, ça fait partie quand même de votre univers. On le voit dans Jouir, mais on le voit dans Toute innocence, dans beaucoup de romans, et même dans Un brillant avenir, c'est très présent. Le corps, hein, que dicte le corps, les sécrétions du corps. Alors évidemment, en Inde, on transpire beaucoup, il fait très chaud, la sueur coule sous les aisselles, à beaucoup d'endroits du roman.
Oh là, trop.
Non, mais
j'ai pas vérifié parce que parfois je vérifie.
Ça fait écho à ce que dit Raphaël quand il parle de la littérature et de l'écriture, quand il dit c'est ça qui m'intéresse dans l'écriture, réussir à rendre compte des diverses sensations. Alors il vient de parler juste avant des épices, du pain chaud, des ordures, de la merde, tout ce qu'on sent, hein, tout ce qu'on entend.
C'est dans le film, justement. On ne sent pas, par exemple. Il y a le cinéma, on peut visuellement voir, entendre, mais on ne sent pas. Et c'est vrai que Raphaël pense que l'écriture est le seul mode qui permet de rendre compte de tout. Et je crois que dans le roman, il y a quand même beaucoup de sensations. Oui,
New York, Histoire d'un cycle, il y a aussi une omniprésence comme ça du corps et des réactions
oui.
du corps.
Et vous avez parfaitement raison, et je crois que c'est un peu mon... Enfin, c'est important pour moi à plus d'un titre. D'abord parce que je crois que dans mon écriture il y a aussi une influence de l'écriture anglo-saxonne et que contrairement à la plupart des écrivains français, je ne suis pas un écrivain d'introspection, d'analyse. J'ai tendance à essayer de trouver un détail très concret et physique qui me permettra de déceler, de déchiffrer le sentiment. Donc je passe par le corps pour dire l'intériorité. Et par ailleurs, je suis une ancienne 18e-iste, j'ai enseigné la littérature du 18e siècle pendant une douzaine d'années. J'ai fait une thèse sur Sade, une thèse sur le roman libertin, deux thèses. Et le 18e siècle libertin, c'est exactement ça. C'est vraiment des romanciers qui luttent qui se battent enfin, idéologiquement contre le métaphysique. Qui disent, bon, c'est très beau comme ça, de défendre la morale et les grands sentiments, mais en fait, nous sommes déterminés par notre corps. Et donc le romancier libertin va s'amuser à d'abord faire parler un prêtre et puis après à le montrer en scène avec une jolie jeune pénitente dont les seins débordent de sa et on voit le regard lubrique du prêtre. Donc d'un coup on n'est plus du tout dans le discours moraliste. Et donc ça c'est typique hein, du roman pornographique du 18e siècle, qui a vraiment une prédilection pour ce genre de sujet, mais dans un but très précis qui est de démonter les mécanismes de l'âme humaine. Montrant que le corps est vraiment a le premier rôle. Et bon, je ne sais pas dans quelle mesure je pense de cette façon, parce que je crois aussi à l'âme et au grand sentiment, mais quand même, oui, le corps joue vraiment un rôle et c'est bon, une scène marquée. En même temps, il y a apparemment des petites invraisemblances dans mon histoire, et ça, parfois, quand ça arrive, j'en suis désolée. Par exemple, il y a une scène d'amour dans Indigo qui se passe contre le tronc d'un cocotier. Il y a des amis qui m'ont dit, mais enfin, en fait, t'as pas pensé qu'il y avait un risque quand même de noix de coco qui tombe. Non, j'y ai pas pensé.
Parce que vous voyez, je n'ai donc pas vécu la scène, parce que si je l'avais vécu, j'aurais peut-être pensé au risque des noix de coco. Donc parfois, là, et c'est toujours, je trouve intéressant, enfin, dans l'écriture romanesque, moi, c'est très important que chaque moment donne l'impression au lecteur d'avoir été vécu. Donc on arrive exactement à se mettre dans les chaussures de la personne en train de vivre cette sensation. Parfois, il y a des erreurs, des petites erreurs.
Oui. Et ce qui est assez proustien aussi, c'est le surgissement des souvenirs dans la pensée des personnages. Qui donne dans ce cadre très, très linéaire, jour après jour, pendant 8 jours, dans un voyage avec un objet bien précis, bien cadré, qui donne finalement du désordre, enfin en tout cas de l'inattendu, des souvenirs qui surgissent du passé à l'insu même, enfin sans que le personnage l'ait prévu et le lecteur non plus. Donc il y a tout le temps des surprises comme ça de lecture par ce fonctionnement de la mémoire. Et c'est une lecture qui m'a fait penser à Proust aussi.
Et en fait, là encore, pour deux raisons. Une raison qui est simplement liée au voyage. Hein. Si vous avez voyagé, quand on voyage et qu'on se retrouve seul dans le voyage, j'insiste sur la solitude parce qu'elle est très importante, c'est tout de suite un lieu de enfin, on est dans une pensée intérieure, on est dans un lieu autre. Et on est ouvert aux sensations que procure ce lieu autre, surtout s'il est exotique. Mais il y a aussi, je pense, une plongée à l'intérieur de soi, une remontée du passé, tout à coup des choses enfouies qui remontent. Et c'est vraiment quand on est au bout du monde qu'on revient sur sa vie. Donc il y a ça, ou même voyager dans une autre ville de France, enfin, se retrouver comme ça ailleurs. Et puis simplement le fait que, comme le roman, je m'en suis aperçue très vite, était sur le rapport au passé, il joue en effet, il y a beaucoup de flashbacks, il joue un rôle important et pour plusieurs de mes personnages j'ai écrit toute leur vie en fait avant de me lancer dans l'écriture du roman, parce que si vous écrivez un livre autobiographique, il est très facile d'écrire sur le passé ou sur un souvenir qui remonte parce que vous l'avez vécu, il est en vous. Mais si vous écrivez un roman, il ne faut pas vous tromper, il faut que les souvenirs soient tous cohérents. Il faut qu'il y ait une vraisemblance, une cohérence. Et donc j'ai été obligée d'écrire très précisément la biographie de Géraldine, celle de Roland, celle de Charlotte, pour que les dates soient là, les personnages dans leur vie, les événements vécus, enfin que ça soit tout à fait cohérent pour qu'au moment où surgisse un souvenir, qu'il y ait un tout petit détail, que ce détail ait l'air vrai.
Oui, il y a des effets de réel à la Balzac aussi.
Oui, oui, oui.
Et alors le voyage peut-être comme détour nécessaire pour se trouver soi-même, comme initiation personnelle. On a aussi cette impression, par exemple Charlotte qui se trouve au bout du monde et qui dit « On l'attendait quelque part sur un autre continent, sa place existait en creux dans le moule d'une famille. » Je trouve cette phrase très belle parce qu'elle montre justement le retour sur soi qu'on fait quand on est loin, seul.
Oui, parce qu'elle a quitté New York donc très déprimée à cause de la mort de cette amie. Et en fait, elle pleurait tout le temps et son mari n'en pouvait plus. Et en plus, elle pleurait devant ses enfants et devant sa fille de 10 ans, qui est une enfant, donc on prend au cours du livre, très très fragile, parce qu'elle pense beaucoup à sa fille. Et elle se rend compte, donc à travers ses flashbacks, à travers cette réflexion, que son rapport à son amie qui s'est tuée, la peur qu'elle éprouvait pour cette amie qui s'est tuée, elle l'éprouve aussi pour sa fille. Et elle se rend compte que cette peur est quelque chose de très très négatif. Et que c'est qu'elle doit, elle a un travail à faire, un travail de tous les jours, un travail vigilant, qui est de ne pas s'angoisser pour sa fille. Donc il y a une sorte de découverte qui est amenée par le voyage en Inde.
Nous allons pouvoir demander à Madame Cusset de dédicacer des exemplaires, si vous le souhaitez, et surtout la remercier.